On va passer au deuxième projet. Monsieur Desailly l'a cité à plusieurs reprises, donc le réseau de cités des vins et des climats de Bourgogne. Alors, avec les deux, vous allez peut-être aller... Non, vous, bon, comme vous le voulez. En premier, le premier qui est apparu dans l'écosystème du projet, c'est Jérôme Diguet, qui est donc responsable du projet de la Cité des vins et des climats de Bourgogne au BIVB depuis déjà quelques années, qui travaille sur ce projet, et on va en parler en collaboration très étroite, plus qu'étroite, sur la partie beaunoise, notamment avec la ville et les collectivités concernées. Et ensuite, Olivier Leroy interviendra également, nouvellement arrivé, assez récemment, puisqu'il a été nommé directeur de l'association de gestion de la Cité des vins et des climats de Bourgogne. Une petite précision, parce qu'on a eu la petite discussion hier. On parle bien de la Cité du vin à Bordeaux. Et voilà, parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure dans le premier atelier, une des objectifs mondiaux de présenter l'ensemble des vignobles. Et ici, nous sommes sur le réseau des cités des vins et des climats de Bourgogne. Jérôme, je te laisse la parole.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter un deuxième projet d'envergure, un projet structurant pour la filière tourisme et la filière vin en Bourgogne. Donc on va vous dévoiler d'abord la vocation du projet, dévoiler le geste architectural des trois équipements, l'ambiance scénographique, on parlera aussi des offres et des publics, et on gardera du temps, bien sûr, pour vous présenter les parties prises, nos convictions pour la mise en récit, la narration, les messages en faveur des vins et des climats de Bourgogne. Donc on vous présentera ça effectivement à deux voix, puisque je passerai la parole à Olivier, qui nous a rejoint il y a deux mois, en tant que directeur de l'association de gestion de l'association climat, des vins et des climats de Bourgogne. Voilà. Alors, donc effectivement, au niveau de la feuille de route, c'est un projet donc culturel et touristique qui est dédié à la Bourgogne, son territoire, ses vins et ses climats. Donc c'est un positionnement qui est clair. L'ouverture est prévue à partir de 2021, fin d'année. Il y a une force, originalité du projet, c'est qu'effectivement, c'est un concept qui est décliné dans trois lieux. Trois équipements à Chablis, Beaune, capitale des vins de Bourgogne, et à Mâcon. Il y a un deuxième parti pris, enfin une force, c'est qu'on a une dimension territoriale qui est affirmée, assumée. On veut vraiment contribuer à renvoyer dans les vignobles. Et enfin, à l'intérieur, on veut miser sur des expériences à vivre qui seront proposées aux visiteurs. Des expériences qui pourront se poursuivre dans les vignobles. On a une ambition culturelle qui est très nette, donc affirmée. Le vin est le patrimoine de la Bourgogne comme fil conducteur et les climats comme emblème. Climat à deux niveaux. Le premier, c'est vraiment le modèle de viticulture en Bourgogne. Ce lien avec la parcelle, ça c'est important pour nous. Donc ça, on veut le montrer, le raconter, l'expliquer. Et effectivement, deuxième niveau, c'est son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO comme reconnaissance. Voilà, donc c'est toujours ces deux temps que l'on veut évoquer. La cité se positionne comme une passerelle donc, vers le vignoble. C'est un lieu donc, culturel de médiation sur les climats. On a un devoir d'expliquer, de raconter. C'est aussi un outil de communication en faveur des vins de Bourgogne. Un lieu de valorisation du territoire et donc une vitrine de l'offre et des acteurs de notre tourisme. Je fais une parenthèse sur la genèse, puisqu'on en avait parlé aussi tout à l'heure. Effectivement, quand on avait commencé les études préalables, l'idée est venue du BIVB. On avait constaté qu'il manquait, enfin ils avaient constaté, j'étais pas encore là, qu'il manquait un équipement culturel, touristique, de pédagogie sur les vins de Bourgogne. On disait les vins de Bourgogne sont complexes. Non, on va montrer, on va prendre ça à contre-pied, on va montrer que c'est diversifié, subtil, et on va le faire goûter, l'expliquer. On voulait contribuer à structurer aussi le marché, le no-tourisme en Bourgogne, donc contribuer à renvoyer sur le terrain, à éviter que les touristes se concentrent trop entre Dijon et Beaune, mais qu'ils aillent en Côte-Chalonnaise, dans le Chablisien, dans le Tonnerrois, pour rebondir sur Madame la maire de Tonnerre. Donc voilà, il y avait cette vocation très collective. Et enfin, cette idée avait été ravivée par la candidature à l'UNESCO. Donc voilà, c'est ce qui nous a porté pour mener ce projet-là. Peut-être deux dates, effectivement, Olivier me le suggérait. Donc ces études préalables ont permis ensuite de proposer le projet qui a été voté en décembre 2016 auprès de la filière, qui a donc donné le feu vert pour la poursuite. Un an après, décembre 2017, aux Hospices de Beaune, nous avons signé avec 14 partenaires, collectivités partenaires, la convention cadre qui cadrait et qui officialisait, je dirais, le soutien financier du projet. Donc voilà, c'était deux dates très importantes qui nous a permis ensuite de lancer la phase de conception avec le choix des architectes, scénographes, muséographes. Donc voilà pour le positionnement de la cité. Je souligne encore effectivement que c'est donc trois équipements, trois sites touristiques. Donc ce sont une offre nouvelle dans l'écosystème en Bourgogne. Mais on ne s'arrête pas là, ce sont vraiment trois cités qui sont des phares pour mettre en lumière les acteurs et les activités de notre tourisme de la grande région. Donc on va s'appuyer et mettre en avant effectivement tous les labellisés, vignobles et découvertes, de vignes en cave aussi, la route des vins, la cité de Dijon bien sûr, les sites touristiques incontournables, ça on y tient, voilà, c'est le rôle collectif. Ça se fera in situ dans les équipements, nous aurons un espace dédié pour ça, un animateur et aussi du numérique pour pouvoir répondre aux requêtes des clients, des visiteurs. Ça sera aussi au niveau de notre portail site web. Donc là, on touche le côté numérique, la cité numérique. Ce sera aussi un vecteur de communication et d'information pour les visiteurs. Donc cette dimension territoriale et collective, on y tient dans le projet. Nous avons donc trois équipements. Alors, le BIVB donc, a eu l'idée, pilote, chef d'orchestre. On ne travaille pas seul, loin de là. Donc il y a effectivement les collectivités partenaires, la région Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Beaune, qui est maître d'ouvrage officiel pour la construction du site à Beaune. L'association des climats, bien sûr, le département, voilà, les acteurs institutionnels du tourisme et bien sûr la filière. On a, suite à des appels d'offres, on a donc trois architectes pour trois équipements, deux scénographes et un muséographe. On travaille à présent sur ce qui fait le cœur du sujet, à savoir le contenu, la muséographie, la mise en avant des messages sur les vins de Bourgogne. On fait ça avec un comité scientifique restreint qu'on a relancé, et bien sûr l'association des climats. Donc ça. Hop. Je vous dévoile le geste architectural du site de Beaune, qui est donc tout récent, officiellement annoncé pendant la vente des vins. C'est le groupe Rougeot qui a donc séduit le jury fin septembre avec un projet de bâtiment avec une vrille autour du bâtiment qui est inspirée de la vrille de la vigne. Donc on a un bâtiment paysage qui s'intègre dans un parc, un écrin vert qui accueillera aussi un hôtel de luxe, deux restaurants, des commerces de produits d'excellence, une halle de réception et bien sûr en son sein la cité des vins et des climats de Bourgogne. C'est un bâtiment qui aura un observatoire, mais je laisserai Olivier parler de l'offre intérieure, enfin de décrire rapidement les offres proposées. On souligne quand même qu'il y a un engagement aussi éco-durable du projet, avec des matériaux nobles, biosourcés. Voilà, il y avait cette contrainte et cette volonté, ce défi d'avoir aussi une touche environnementale. Un visuel d'ambiance pour vous montrer l'accueil, donc le style intérieur. Un autre qui illustre le plateau qui sera dédié à l'exposition permanente de 1100 m² dédié pour ça. Donc là, c'est la scénographe qui fait partie du groupement à Lisan-les-Villes avec qui on travaille. C'est un concept de claire-voie qui permet de faire des volumes et un flux de visiteurs. Un visuel aussi qui illustre l'une des premières séquences avec une mosaïque des paysages qui est illustrée. Voilà. Je ne vais pas poursuivre sur Chablis, j'ai passé la main à Olivier et je reprendrai après pour le temps du récit.
Merci, bonjour à tous. Effectivement, donc, juste pour vous signaler par le biais de ces visuels, tout simplement, la diversité des sites que nous allons animer. En quelques mots, on vous a présenté donc un projet qui va sortir de terre. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la proximité immédiate de cet amphithéâtre, vous avez une belle surface avec des hautes herbes et au fond la Bouzaise, une petite rivière qui coule et quelques arbres. Ben, c'est là où demain on va créer cette cité de Beaune qui vient d'être présentée. À côté de ça, hop, on voyage, on va à Chablis. À Chablis, on est dans un tout autre contexte. Là, on est en cœur de village. Je rappelle que Chablis, malgré sa notoriété mondiale, c'est 1200, 1500 personnes tout au plus. Donc c'est un gros village et entouré de vignes. On est en cœur de village, on est sur un site que vous voyez ici, qui est en fait au fond ce qu'on appelle le petit cellier de Pontigny. L'abbaye de Pontigny, qui est proche de Chablis, a un grand cellier juste à côté de l'abbatiale et un petit cellier qui était déporté. Ce petit cellier, il a une histoire très forte pour les gens de Chablis. C'est un lieu où ont eu lieu durant peut-être les 50 ou 100 dernières années énormément d'événements familiaux, des mariages, des fêtes de famille, etc. Donc aujourd'hui, ils y sont extrêmement attachés. Donc nous, notre travail, ça va être cette fois-ci de respecter ce bâtiment, à la fois dans son architecture, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas dénaturer le site tel qu'il existe, on va au contraire l'inspirer, le magnifier. On va juste abattre sur la partie droite, vous voyez un bâtiment un petit peu plus moderne, mais qui respecte la forme et les matériaux de l'ancien, avec des matériaux là aussi toujours nobles, hein, de la pierre, de l'inox, de la tuile, des choses qui s'intègrent vraiment, et puis qui en sert un petit jardin qui va être préservé, qui sera une ouverture justement sur ce paysage. Donc là, vraiment, un autre défi. Donc là, on le voit, on a cette vision avec, sur le côté gauche, un autre bâtiment plus classique, plus moderne, qui est l'hôtel Gras, dans lequel il y a le siège du BIVB, ce qui permet toujours aussi cette capacité à être en proximité de la filière œnotouristique et que demain, les trois cités deviennent aussi leur maison. C'est la maison des climats, c'est indéniable. On sera heureux de travailler vraiment à l'animation avec l'association des climats, mais c'est aussi la filière viticole qui doit s'approprier, ça doit devenir sa maison. Si je passe au troisième site, donc la cité à Mâcon, là, on a encore un cas de figure particulier, c'est ça qui fait la richesse, hein, pour représenter la diversité des vins et des climats, finalement, on a la diversité des architectures et des lieux. On a une cité qui, là, est en bord de Saône, qui est la jointure, en fait, entre deux bâtiments, un que vous voyez en tuile et l'autre avec une couverture plus foncée, par une entrée unique qui est créée par l'architecte pour donner justement cette centralité, cette unité entre les deux bâtiments et une belle élévation, là aussi un symbole du vignoble avec finalement une vis de pressoir qui est symbolisée et qui permettra depuis un petit observatoire d'avoir une vue sur la Saône. Voilà, donc ça c'est un autre contexte encore. Ce qu'il faut voir, c'est dans le quartier, on a également quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est en plein milieu du pôle finalement culturel et sportif de Mâcon, avec à proximité immédiate un cinéma, un théâtre, une église, des espaces et des équipements sportifs. Donc vraiment, on est sur un lieu culturel au sens large qui peut fédérer le plus grand nombre, et la proximité du fleuve, on le sait, qui est important. Voilà une autre vue donc depuis ce parvis qu'on va garder. Donc cet aspect architectural, il est important pour nous, et en même temps, vous le comprenez, c'est un défi, parce qu'il faut inventer à chaque fois une façon différente, et Jérôme en reparlera tout à l'heure, de scénographier pour en même temps garder les mêmes messages. Donc on est sur une muséographie des messages qu'on doit passer qui sont identiques, dans des formats d'espace, on ne l'a pas évoqué, qui sont différents. Vous aurez de l'ordre de 370 mètres carrés d'espace permanent à Chablis, donc c'est tout petit, si on s'en réfère à l'exemple de Dijon, à celui de Lyon ou de Bordeaux. On aura de l'ordre de 450 mètres carrés sur la partie muséale propre à Mâcon, donc là aussi petit, et 1100, on le disait tout à l'heure, sur Beaune. Mais c'est une partie seulement de la richesse. Ensuite, dans cette scénographie, on va avoir un lien, on l'a dit, on a deux scénographes. On en a un spécifique à Beaune, parce qu'à Beaune, c'est un groupement que nous avons choisi. Donc, une fois qu'on choisissait finalement l'un des groupements, on avait à la fois l'architecte, le constructeur, le scénographe et tous les équipementiers pour derrière assurer la maintenance, l'énergie et autres. Donc là, sur Chablis et Mâcon, le choix du BIVB a été différent. Il a dit, on veut un même scénographe et on part sur un concept de strate. Ce qui va vraiment marquer de son empreinte ce bâtiment, ces deux bâtiments, c'est que finalement, quand on va rentrer, le visiteur va être directement intégré dans cet espace, cette forme d'immersion, on a utilisé le mot ce matin, c'est important, que voilà, ils vivent quelque chose, ils se disent, là je viens de franchir un pas, je suis dans un autre monde. Voilà, on va essayer de bercer comme ça le visiteur en alternant à la fois des choses qui sont numériques, mais pas trop, à la fois des choses qui sont des manipulations, mais là aussi avec mesure, et en gardant de l'humain, je crois que c'est important. Beaucoup de visiteurs d'autres sites muséaux ou de cités, de centres d'interprétation disent souvent il manque de l'humain. Et donc un des défis qui sera le mien en tant que futur exploitant, ce sera véritablement de fédérer tous les acteurs partenaires autour de ces cités, que ce soit la filière. On le dit, les vignerons, ce matin, on l'a vu, ne sont pas toujours à l'aise pour ouvrir leur caveau. Moi, je vais leur demander en plus de venir témoigner et de parler dans la cité. Ben voilà, c'est pas évident. Il va falloir travailler avec les guides, parce que je suis persuadé effectivement que vous êtes des vrais liens avec cet écosystème, avec le label Vignoble et Découverte. Et il y a de, comme ça 1000 acteurs à fédérer en même temps. Les paysages de mots, hein, toujours cette représentativité. On ne l'a pas dit encore, mais chaque cité parlera de l'entièreté des vins de Bourgogne. C'est très important. On veut que finalement, à Mâcon, on puisse aussi évoquer le Chablisien. On veut qu'à Chablis, on puisse aussi évoquer la Côte de Nuit, la Côte de Beaune. C'est très important. À Beaune, on parlera avec plus d'espace de tout le monde. L'immersion, on l'a dit, hein, des espaces un peu atypiques, à la fois liés aux contraintes architecturales et parce que ça contribue, on va dire, à cette unicité de chaque site, ce qui fait que même si on peut imaginer qu'aucun visiteur, naturellement, ne viendra voir les trois cités en enfilade, même si on l'espérerait tous, hein, c'est vrai qu'un visiteur qui commencerait de Rungis à Dijon, Chablis, etc., bon, très bien, forcément, mais bon, il y aura un effet répétitif. Par contre, en ayant trois équipements qui, en tenant le même langage, quelque part, en portant des messages vérifiés par un comité scientifique, arrive à faire vivre des choses différentes, ça c'est important. Ce qui fait que sur 3 ans, on peut espérer éventuellement avoir des gens qui viennent chaque année à un endroit différent. En termes de public ciblé, puisque je vous parle justement des gens qu'on va accueillir, on est aussi dans une logique qu'on veut accueillir le plus grand nombre. Hein, il n'est pas question ici de rester entre experts, entre connaisseurs. On a un certain nombre de gens qui sont des amateurs nés et qui viendront effectivement volontairement, par dessein, faire un séjour en Bourgogne pour découvrir ces cités. On a d'autres gens qui sont des visiteurs plus de passage. On le sait, la Bourgogne, malheureusement, on le regrette et on travaille tous à aller au-delà, essentiellement pour le moment une destination, une voie de passage. Donc là, on aura ces gens-là, il faut que ces néophytes ils se retrouvent chez nous, qu'ils trouvent des choses simples mais vraies. Et puis, on a la clientèle de proximité. On a tendance tout simplement à l'oublier. Mais il faut d'abord, je vous le disais, que les gens locaux s'approprient ces cités, qu'ils en fassent leur maison, que ce soit la filière ou d'autres. Il faut qu'on s'y sente bien. Donc j'en finirai avec l'offre qu'on espère attractive, hein, même si les moyens seront toujours limités. Des parcours de visite. Et là, il faut que les parcours y soient adaptés à tous les publics. Ce que je dis par là, c'est qu'on songe, bien entendu, comme l'a évoqué notre collègue de la Cité du Vin ce matin à Bordeaux, au multilingue. Il faut que le multilingue soit prévu. Alors, est-ce qu'on sera en 8 langues? Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Ça me paraît ambitieux. Mais en tout cas, c'est important. La deuxième chose, c'est les publics adultes et enfants. Je crois que c'est important. On a prévu des choses spécifiques pour les enfants, pour que, d'une part, ils soient traités comme de vrais clients, ça c'est important, et deuxièmement, que les adultes qui les accompagnent bénéficient aussi d'une visite et de dégustation de qualité. La troisième chose, c'est naturellement des publics néophytes ou experts, on l'a dit, avec des offres suffisamment variées. Dans les ateliers de dégustation, des formations, une découverte des accords mets vins. Là, on commence à venir progressivement sur le sensible. Dans le parcours, il y aura eu des choses, bien sûr, liées à tout ce qui est toucher, olfactif, etc. Mais on va finir dans le biais. Et là, c'était une question que vous posiez tout à l'heure. Je crois que c'est important par rapport à l'expérience en plus d'autres. C'est de dire, voilà, il faut effectivement que dans le parcours, dans le biais, il y ait une dégustation. Donc, il y aura bien une dégustation dans le biais d'entrée. Ensuite, on sait que les gens, ben voilà, quand on goûte des bonnes choses, ça a toujours un goût de trop peu, on le sait tous. Donc, ils auront certainement envie d'aller plus loin. Et là, on les incitera effectivement à aller plus loin en découvrant des accords mets vins, des choses un peu élaborées, un peu sophistiquées, qui mettent en valeur les produits locaux, les vins de qualité. En termes d'exposition culturelle, de conférences, c'est quelque chose auquel on tient. On aura des moyens qui seront mine de rien réduits, il faut le dire, compte tenu des espaces. Mais voilà, ça c'est l'ingéniosité des équipes, c'est la volonté qui fait qu'on trouvera toujours moyen de répondre à ces demandes et d'avoir une animation variée. Une boutique, il y aura une boutique dans chacune des cités, hein, de taille plus ou moins modeste, mais c'est important, ça fait partie des services incontournables. Et là aussi, le but sera non pas de concurrencer nos amis viticulteurs et vignerons pour vendre du vin à leur place, mais tout simplement de faire découvrir dans des coffrets quelques petites choses, de ne pas forcément faire de la restauration pour concurrencer nos voisins, partenaires, restaurateurs, mais de faire découvrir quelques produits du terroir dans une logique d'accord mets-vins. Vous voyez, tout est pensé finalement pour cette complémentarité. Et je m'en arrêterai là avant de repasser la parole brièvement à Jérôme. Le dernier point, c'est vraiment cet espace d'information touristique. Retenez bien, nos cités sont conçues comme des portes d'entrée vers le territoire. Nous sommes là pour désinhiber les gens qui ne seraient pas déjà amateurs ou connaisseurs, pour qu'ils se sentent à l'aise pour derrière aller profiter du territoire, découvrir les vins, découvrir les vignobles.
Donc pour faire un focus sur la thématique d'aujourd'hui, donc montrer et interpréter la vigne et le vin, donc on voulait vous soumettre, alors j'ai mis un schéma pour bien souligner nos partis pris, nos convictions. Effectivement, on souhaite raconter plutôt qu'expliquer, on souhaite faire vivre. Voilà, c'est important, voilà donc où nous serons positionnés. C'est important parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On le voit dans le comité scientifique avec nos professionnels aussi. On veut dire beaucoup de choses, donc il faut hiérarchiser, prioriser. Il faut surtout que le visiteur apprenne sans s'en rendre compte, passe un bon moment. Donc il faut plutôt raconter. D'ailleurs, c'est un vrai métier. On a quand même cette propension, nous, à vouloir tout dire, etc. Donc on est accompagné par une agence de muséographie, Amanscience. Suzy Macario, sa directrice, d'ailleurs, intervient demain. Peut-être qu'elle est même déjà arrivée. Je ne vois pas. Donc voilà, donc raconter plutôt qu'expliquer. Emporter le visiteur à travers les yeux du vigneron, ce que l'on veut faire, c'est mettre du relief, de la dramaturgie au discours. On a eu des débats avec le comité, par exemple le phylloxéra, est-ce qu'on en parle ou pas pour le grand public? Ça a fait débat, la réponse est oui. Est-ce qu'on met une date ou une période? C'est trop neutre, trop linéaire, c'est trop sec. Comme le disait ce matin, on ne veut pas être sec comme un repas sans vin, donc on veut donner du relief. Donc on s'est dit, le phylloxéra à l'époque, ça a dû être presque la fin du monde, il a fallu arracher, replanter, qu'est-ce que je fais? Je fais une autre culture. Donc voilà, donc on veut donner du relief à toutes ces époques, tout ce travail. On veut en fait miser sur l'humain, à la fois en témoignage de vigneron, en tant que fil de narration dans les parcours de visite, et avec animateurs aussi qui sont médiation humaine. On veut donner donc davantage de contenu à l'ambiance scénographique que vous avez vue. Donc on veut viser le juste équilibre entre, encore une fois, médiation humaine, c'est important pour nous, entre des solutions numériques, audiovisuelles, multimédia, et aussi objets à manipuler. Donc voilà, il faut trouver le mix, le curseur, un bel équilibre. Enfin, on veut aussi sentir des arômes plutôt que de lire un roll-up sur les arômes. Il y aura une phase de dégustation très claire dans nos équipements, à la fois inclus avec le parcours de visite, le billet d'entrée, et aussi pour poursuivre avec des ateliers très courts, flash, avec l'école des vins qui sera partie prenante du dispositif. Donc voilà. Et enfin, cette expérience-là se poursuivra aussi dans le vignoble. Donc voilà nos partis pris, on veut vraiment donner du souffle, montrer un peu la passion. On parlait d'aventure humaine tout à l'heure, monsieur, c'est ce qu'on veut montrer aussi. C'est comme ça que nos messages seront diffusés. Deux mots quand même, vous dire qu'on a un parti pris de trois étapes, trois échelles d'observation qui passent de la Bourgogne à la parcelle, à la grappe, au produit vin, effectivement. C'est en phase d'ailleurs avec notre nom, Cité des vins et des climats de Bourgogne. Donc voilà, on a une vision globale qui sera d'ailleurs théâtralisée avec une ambiance sonore différente. Quand la géologie, le sous-sol s'est formé, on peut mettre un son qui sera différent ensuite du travail sur mesure, dentelle, au niveau du métier du vin. Donc voilà, donc on a la région qui raconte le territoire, l'évolution des paysages, les premières vignes, la notoriété grandissante des vins de Bourgogne. Un zoom ensuite à la parcelle, puisqu'on a ce lien à la parcelle, cette notion de terroir, donc là on l'expliquera. Et puis donc ensuite vers la sensorialité du produit, le goûter, le sentir, l'aspect convivial. Les outils de médiation sont en train d'être... on y travaille, donc il y aura des dispositifs très immersifs, audiovisuels, comprendre la géographie, la beauté des paysages, la mosaïque des terroirs, enfin des parcelles, du sud au nord de la Bourgogne, un voyage dans le temps aussi pour montrer qu'on fait des vins depuis des siècles en Bourgogne. Donc voilà, il y a tout plein de dispositifs différents qui seront mis en place. J'arrêtais comme ça, je suis un peu surpris. Peut-être vous dire quand même, qu'on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Terminer par deux points quand même, on veut aussi, grâce à ces outils, ces dispositifs, ces équipements, réunir, passer un message sur les deux publics que sont les vignerons, domaines et caves qui accueillent chez elles, et puis les publics visiteurs. En fait, il y a un public qui déambule, il se promène, effectivement, il fait du tourisme en Bourgogne. L'autre personne, le public, c'est son lieu de travail, donc il faut que les deux personnes cohabitent. Donc on veut aussi passer des messages. La vigne, c'est vivant, il faut l'accompagner, il y a des passages d'engins. Voilà, donc on veut réunir ces deux publics, on veut y contribuer. Et enfin, on parle quand même d'un produit vin, c'est pas anodin. On a une dimension très large sur le vin, et en plus en Bourgogne, à savoir, on peut parler de convivialité, de dégustation, d'arôme. Donc ça, c'est le côté un peu, je dirais, horizontal du produit. Et on a aussi une dimension très verticale qui va très loin en Bourgogne. On parle d'histoire, de sol, de tradition, de culture, de paysage culturel. Et on peut comme ça s'élever avec une certaine profondeur. Enfin, voilà. Donc ça, on veut le faire ressentir. Et c'est ce côté sensible qu'on veut véhiculer aussi dans ces trois équipements. Voilà, on y tient. C'est cette dimension culturelle. Merci à vous.
Merci Jérôme, merci Olivier. On prend une ou deux questions dans la salle, de la même manière. Là-bas au fond.
André Valogne, membre de l'Association des climats de Bourgogne et co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La noblesse du tonneau ». Et je suis très surpris dans tous vos propos qui sont tenus qu'en aucun cas le tonnelier est évoqué dans les différentes cités. Or, si nous buvons des très grands vins, je crois que l'élevage sans tonneau serait dommage. Alors j'espère que dans vos futures cités, eh bien, le tonnelier, qui est un homme de l'art, sera mis en avant, d'autant plus qu'en Bourgogne, je crois qu'aujourd'hui, la référence internationale de la tonnellerie est bourguignonne.
Parfaitement. Donc, je peux vous rassurer là-dessus. Effectivement, même si le mot n'a pas été prononcé, il est clairement dans notre feuille de route. Comme tous les participants de la filière, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a axé les échanges autour des vignerons, mais tous les participants de la filière seront amenés à mettre la main à la pâte. C'est leur maison autant que la nôtre. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre des animations que je devrais mettre en place en tant qu'exploitant, il est évident qu'ils ont toute leur place.
Et vous aurez du boulot, parce que dans la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, dans le hall d'entrée, on veut aussi faire connaître les différents métiers de la vigne. Et il y aura autour du vin, bien sûr, et il y aura un moment, les tonneliers auront leur place, bien sûr, régulièrement à des périodes pour faire, il faut que ça bouge. Donc ce ne sera pas tout le temps le même métier, mais en tout cas, vous aurez toute votre place.
Une nouvelle question.
Je voulais rebondir sur le témoignage de nos amis helvétiques que j'ai trouvé remarquable. Parce que c'est pratique, c'est la vraie vie. Et je me demandais si cette cité des vins et des climats, qui semble être une porte ouverte sur nos terroirs, allait être aussi efficace, notamment dans le rôle de faciliter la vie entre les opérateurs et les visiteurs. Et cette éducation qui a été faite sur des médiateurs, sur des guides, me semble drôlement intéressante. Donc la question, c'est est-ce que vous avez prévu que de jeunes bourguignons ou d'autres soient formés à permettre cette convivialité et cette coexistence ? La formation, point d'interrogation, où est-ce qu'elle est dans les projets respectifs ? Alors, la cité de la gastronomie est un sujet qui me semble extrêmement vaste, mais le vôtre est précis et bien taillé, et donc c'est à vous que je pose la question.
Votre nom, votre structure ?
Alors, je suis Laurence Debar et je suis guide conférencière.
Merci.
Il y avait deux points dans votre question, effectivement. Le premier, le relais sous territoire. Donc là, comme on le disait, c'est vraiment une volonté et on aura donc des moyens pour le faire. Donc des espaces dédiés avec un animateur qui va en parler, du numérique qui mettra, selon la disponibilité, le choix, les attentes du visiteur, où est-ce qu'il peut aller. On mettra en avant les acteurs de nos tourismes, les fêtes autour du vin, voilà ce qui est possible de visiter. Et après, il y avait la formation. Nous, notre projet, c'est vraiment pédagogie, communication, culturelle. Donc, de toute façon, l'école des vins et son savoir-faire, on y tient et il y aura des formations courtes, plus longues. On va continuer ça, bien sûr.
Et
si je peux me permettre en tant qu'animateur, mais je me permets beaucoup de choses, mais tant pis, je vous rejoins à 300% et je pense qu'on est avec les projets de cité, avec les réflexions sur vignobles et découvertes, l'ensemble des partenaires du tourisme, de la viticulture, on pourrait citer la directrice de la communication de l'interprofession, qui, voilà, on sait qu'on... L'interprofession doit s'ouvrir aussi à ce public-là et doit participer aux formations, on doit tous être autour de la table et c'est en train de se mettre en place. J'espère qu'on ira très loin jusqu'à l'exemple de Lavaux. Comme vous le dites, on est revenu sur des choses assez basiques. Cette simplicité, voilà, on se dit, mais mince, il y a 55 guides du patrimoine formés qui reviennent. Mais voilà, donc il faut, et à côté de ces projets, c'est vrai qu'il y a ces deux témoignages où il y a l'artillerie, évidemment, c'est des gros projets. Nous, l'Association des Climats, on essaye de veiller justement et on sait qu'on les embête des fois à titiller en disant mais attention, n'oublions pas tel et tel point. Alors, ce n'est pas qu'on a la science infuse, hein, parce qu'on n'a pas la solution malheureusement, mais on essaye de, voilà, et je pense que votre remarque est vraiment totalement appropriée. Bon, normalement, on a dépassé le temps, mais je vois une dernière question là-bas. Mais je pense que tant qu'il y a des questions, on va poursuivre.
Anne Chanona, je suis responsable des collections du musée régional d'Auvergne, qui est un petit frère du musée des vins de Beaune. Moi aussi, je suis de formation, je viens du tourisme, j'étais guide interprète régional, et je rejoins aussi madame, je me dis, je suis du pays de Vulcania, donc, pardon, ça ne m'a pas tellement convaincue, ce que vous avez dit. Et en tant que aussi maintenant acteur du monde des musées, je m'inquiète, mais peut-être parce que je connais mal le territoire, est-ce que quelqu'un sur votre territoire magnifique travaille sur le collectage ethnographique ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se documenter ? Nous, on a l'AMTA, c'est l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. Je suis sûre qu'il y a des foultitudes de choses sur la musique, sur les fêtes, sur le mode de vie de ces gens, parce qu'on n'arrête pas de parler de paysages. Ces paysages, ils ont été faits par les hommes. Où sont les hommes ? Où est-ce que je vais me documenter pour savoir qui sont les gens qui ont fait ces paysages et qui ont fait ces vins ?
Alors aujourd'hui, avec le faible recul que j'ai, puisque je suis depuis 2 mois ici, ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes ont beaucoup d'informations, que l'interprofession elle-même a collecté déjà beaucoup d'informations en la matière, qu'elle s'appuie sur un comité scientifique qui représente à la fois les viticulteurs, le domaine universitaire et un tas d'experts sur leur domaine, de façon justement à alimenter toute la muséographie. Donc, si votre question est-ce qu'il y a un fonds unique où je peux tout trouver, je crois qu'aujourd'hui, non, ça n'existe pas et je doute que ça existe ailleurs. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'on tente de collecter. La présence de Laure Ménétrier au titre, justement, de collaboratrice au sein du comité scientifique montre bien que, voilà, on va, y compris au sein d'institutions déjà établies, chercher la connaissance qui peut manquer, qui alimente, qui oriente, on va dire, notre réflexion.
Je me permets de compléter, connaissant très bien l'AMTA, pour avoir porté des projets avec l'AMTA en Auvergne il y a quelques années. Ici, il y a énormément d'initiatives, de projets qui se mettent en place, qui sont déjà en place. Il y a un énorme travail, on va parvenir sur les archives, qu'elles soient des municipalités ou des archives du département. Il y a des choses qu'il faut qu'on mutualise, qu'on arrive à numériser, à mettre dans les mêmes fonds. Voilà, je pense que c'est quelque chose que toutes les responsables d'archives ont bien en tête. On avait notre comité technique permanent hier matin, donc avec toutes les instances des climats. Et c'est une des propositions sur les 3 prochaines années, c'est de se dire, travaillons peut-être encore plus ces archivages, les rendre aussi au monde scientifique, en trouver des éléments de vulgarisation, d'interprétation ou de partage, soit ouvrage, enfin, quels que soient les types. Et on a encore un énorme travail à faire. Mais on est totalement dans cet esprit-là. Je pense que ça a mis du temps ici. On commence à le faire. Mais ce qui est fou, c'est quand vous connaissez la quantité d'archives qu'il y a autour, notamment de la vigne et du vin, Il faut vraiment qu'on y arrive. Sur votre question sur l'ethno, ce sont nous, les climats, on a mis en place un programme depuis 2 ans maintenant d'ethnologie grâce à un mécène qui nous a apporté de l'argent, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu le faire avant. Et c'est la première fois, il y avait déjà un exemple sur Gevrey, où on va collecter auprès de vignerons, pas forcément du chef et du, comme je le dis régulièrement, du chef du domaine. Comme je le dis régulièrement à mon président d'honneur Aubert de Vilaine, si c'est pour réentendre Aubert de Vilaine, ça va être important, il va être dedans. Mais c'était d'aller voir aussi des tâcherons, des femmes de viticulteurs qui n'étaient pas forcément dans la viticulture, mais qui organisaient la vie, d'aller voir des tonneliers, etc. Donc c'est en cours depuis 2 ans. Et il y a une première exposition de restitution qui est en cours, qui circule sur le territoire, qui s'appelle Parole Vigneronne. Et toutes les données sont déposées à la Maison des Sciences de l'Homme et pour être utilisées par les chercheurs. L'idée, voilà, qu'on a tous, je vois l'or devant moi, mais c'est qu'on arrive à tous travailler et servir de ces projets de cité, parce que la candidature a été un moment justement où on a eu, nous, on avait 33, je crois, chercheurs qui travaillaient pendant 9 ans sur la candidature. Il a fallu l'utiliser. Dans le cadre des travaux d'une cité, d'un lieu culturel, etc., et des archives, on a une matière considérable, il faut qu'on l'organise. C'est un vaste chantier, ça ne se fera pas avec juste en se mettant autour de la table. Je pense qu'il faudra qu'on y mette des moyens, comme l'a pu le faire pour le lancement de l'AMTA. Dernière question. Ah non, il y en a deux. C'est après, c'est mes collègues qui vont me tirer les oreilles, mais ce n'est pas grave.
Oui, encore Charlotte Fromont, désolée. Mais là, c'est pour la cité de la gastronomie et du vin à Dijon. Dans le projet que vous nous avez présenté, je n'ai pas entendu une association avec le musée des arts de la table d'Arnès. Est-ce que c'est prévu quelque part?
J'ai déjà visité plusieurs fois et on pourra travailler sur des expositions éventuellement ponctuelles et puis à certains moments, pourquoi pas? Tout est possible. Je veux dire, ou après, on peut aussi faire de la publicité, nous, au sein de la cité, pour que les gens aillent là-bas. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Je veux dire, les Grottes de Baie, je vous disais tout à l'heure, ils nous demandent sans arrêt si on peut faire de la publicité pour leur site touristique. Mais aussi, on pourra aussi, pourquoi pas, travailler. Mais on ne veut pas quelque chose. Moi, je tiens vraiment à pas quelque chose. Je ne veux pas de vitrine partout où on a pu voir ailleurs. On veut quelque chose. Il faut de l'expérience, il faut quelque chose de vivant.
Ah oui,
donc,
oui.
Il n'y aura pas une salle remplie. Je veux dire, à Lyon, ça a été un peu la critique. Ils veulent revenir en arrière sur leur possibilité. Enfin, ils veulent évoluer. On ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Mais c'est vrai qu'il y a moyen. Il y a des belles pièces à exposer, à montrer. Mais ça ne sera pas dans une salle uniquement avec ça.
Non, parce qu'ils ont fait pendant plusieurs années des expositions à thème. On n'avait pas forcément, nous, en tant que Dijonais ou Beaunois, l'occasion d'aller sur Arnais. Et j'imaginais que ça pouvait être un super partenariat que d'associer aussi des gens qui sont professionnels, qui ont la matière, qui ont le recul, en réactualisant la façon de présenter les choses. Mais la cité de la gastronomie et du vin, ça me semblait couler de source, puisqu'on a les fonds à Arnais, aussi bien qu'à l'ABM de Dijon, qui est génial pour ça aussi, mais de pouvoir utiliser déjà ces sources-là qui sont sur le territoire et de les mettre en valeur.
Jean-Robert Pitt, le patron, le président de la MFPCA, il aimerait bien qu'on travaille notamment sur le service à la française, le service à la russe, le service à l'anglaise, et là on pourrait éventuellement travailler avec des musées pour étoffer ces expositions, ces façons de servir, ces façons de manger, tenir une assiette, par exemple le couteau à l'envers ou le couteau à l'endroit selon si on sert à la française ou à l'anglaise. C'est tout ça, ça pourra se faire en partenariat après, bien sûr, avec des moyens à Arnais, etc. Il n'y a pas de problème. Il faudra travailler là-dessus. Et ça, vous consultez Zoé, parce que Zoé, c'est elle qui s'occupe après de la partie culturelle. Et c'est vrai qu'on a déjà notre première exposition. Mais là, on est déjà à travailler sur ce qu'on va faire après. Parce qu'il faut que ça bouge. Il faut que les expositions, ça donne envie aux gens de revenir. Et il faut que les expositions soient... Enfin, ça bouge rapidement, quand même.
J'avais une dernière question là-bas.
Oui, c'est moi. J'aimerais savoir comment vous voyez l'articulation entre la cité de la gastronomie des vins de Dijon et la cité des vins et des climats de Bourgogne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des études, vous avez réalisé des études qui montrent que les gens qui vont aller à Dijon pour la cité de la gastronomie vont ensuite venir à Beaune et inversement?
Dans la chapelle des climats, là je peux me permettre de répondre, parce qu'on m'a dit on part de Dijon, donc après de bonne vous verrez pour venir à Dijon. Mais dans la chapelle des climats, nous aurons bien sûr un travail sur les climats. Donc les gens vont être incités. Nous sommes au kilomètre premier des climats. On va travailler là-dessus, on va marteler le message. C'est vraiment important pour nous. Le but, je vous ai dit, c'est un esprit gagnant-gagnant. Et on fera une publicité pour les hospices de Beaune, publicité pour les climats. On va parler de Gevrey, on va parler. Enfin, le but, c'est d'avancer, c'est que les gens puissent ont envie de découvrir. C'est pas simplement, bon, il reste à Dijon, c'est bien, il y a le musée des Beaux-Arts, le parcours qui permettra de visiter, on fera des partenariats et le fonds gourmand, etc. Mais le but aussi, c'est que les gens aillent visiter. Et n'oublions pas qu'on a quelque chose qui nous lie. C'est pas simplement, il y a la cité de la gastronomie de Dijon et il y a la cité des climats et des vins, c'est des vins et des climats, c'est nous avons, nous aussi, le centre historique fait partie de cette inscription au patrimoine mondial. Donc c'est pour ça, nous aussi, c'est important de travailler avec Beaune et d'inciter dans cette chapelle, on parlera bien sûr, c'est évident, des climats et de Beaune bien sûr.
Oui, tout à fait. Je vais dans ce sens aussi. Hein. On est bien dans une logique de coopération. Aujourd'hui, il n'y a pas de chose de signée parce que les deux projets sont en train de se construire et ce n'est pas facile de tout mener de front. Il faut d'abord avoir une offre à peu près stabilisée, mais les contacts existent. Au sein de la cité de la gastronomie et des vins, bah aujourd'hui on l'a cité tout à l'heure, il y a plusieurs interlocuteurs, hein, que ce soit l'association, que ce soit FH, que ce soit la mairie. Nous travaillons et nous parlons avec toutes ces personnes. De notre côté, ce qui est important, c'est que bah, même si effectivement on a comment dire, déjà bien avancé, l'antériorité est moindre. Moi-même, j'arrive depuis peu, donc on est dans une logique, il faut d'abord se poser. Hein, mais pour répondre sur un sujet, par exemple, très précis, aujourd'hui, il n'y a pas d'étude, à ma connaissance, sur la capacité à renvoyer d'une cité à l'autre, parce qu'on parle de deux hypothèses pour le moment. On ne sait pas quand ça va ouvrir, on ne sait pas exactement si tout va ouvrir en même temps ou pas. Hein, nous, on a trois sites. La deuxième chose, c'est qu'en termes de fonctionnement, on l'a cité, l'école des vins de Bourgogne et cette importance sera aussi présente au sein de la cité de la gastronomie, ce qui est quand même là aussi une forme de partenariat quelque part. Et on est en train de réfléchir avec le futur exploitant des espaces culturels, justement à avoir peut-être une billetterie unique, de façon à ce qu'un visiteur ne soit pas là à se dire eh ben, il faut que j'achète d'un côté l'entrée aux espaces culturels, ensuite que j'aille acheter une dégustation à part. Les deux peuvent aller de pair. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours. On a 2 ans pour y travailler. Je peux vous dire, on ne chôme pas.
Merci.
Pour conclure, je vais quand même juste indiquer que c'est quand même la première fois où on a les deux projets présentés en même temps, sur un même lieu. Et je pense qu'on y on le construit petit à petit tous ensemble. Je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi, mais les climats ont permis, je pense, et c'est le directeur adjoint de Dijon qui le disait hier en comité technique permanent, de mettre tout le monde autour de la table et de se rendre compte que, voilà, oui, il y a des volontés politiques. On est en démocratie, il y a des volontés politiques des uns et des autres. À un moment donné, il faut retrouver le sens du territoire et on est en train de le faire. Alors, tout n'est pas rose, hein, je ne vous dis pas que tout est beau, tout est simple. Une question qui n'a pas été posée, qui moi, celle qui est la plus évidente à ce jour, je lance un pavé pour demain dans la mare, Cité des Vins et Hospice de Beaune. Hospice de Beaune, 450 à 470 000 visiteurs sans la moindre publicité. Comment ça va fonctionner avec la Cité des Vins? Alors évidemment, on se pose la question, c'est deux produits différents, mais quel est le comportement du visiteur? Voilà, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont vouloir vraiment aller visiter les hospices? Parce que c'est l'incontournable. Hein. Un audit qui vient d'être fait sur 66 pays par Atout France à la demande des sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté. Premier site cité dans 66 pays étudiés par Atout France, en Bourgogne-Franche-Comté, les hospices de Beaune. Aucune publicité. Deuxième, le musée des Beaux-Arts de Dijon, ce qui nous a étonnés, mais on a compris après, parce qu'il y a eu une politique de rénovation, mais surtout aussi de communication pour dire que ça réouvrait. Mais voilà, ça c'est des éléments qu'on construit ensemble, et celui qui est capable de me dire comment ça va fonctionner, même en ayant tout le contenu de la Cité des Vins ou la Cité de la Gastronomie, il faudra jour après jour se remettre autour de la table et construire ça ensemble. Et je tiens à vous remercier, Dijon et le réseau des Cités des Vins d'avoir accepté notre invitation pour présenter en même temps les deux projets. Je vous remercie à tous pour votre participation.